Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé hier au Nigeria. L'épidémie s'étend dans le monde, mais pas question de fermer les frontières en Europe. Français et Italiens le disaient d'une même voix hier soir. Alors que la crainte d'une pandémie fait chuter les marchés financiers mondiaux, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, retour sur le procès Fillon, où la femme de l'ancien Premier ministre a tenté hier de se défendre. Pénélope Fillon assure avoir travaillé en tant qu'assistante parlementaire, mais elle manque de preuves. L'entreprise Lubrizol France est mise en examen, 5 mois après l'incendie de son site à Rouen. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Et puis Asia Bibi, reçue à l'Élysée aujourd'hui, la chrétienne pakistanaise demande l'asile en France. L'épidémie de coronavirus se propage donc désormais bien au-delà de la Chine, où la propagation de l'épidémie ralentit ces derniers jours. Les mesures dans le monde se sont multipliées, de l'Arabie Saoudite qui n'accueille plus de pèlerins voulant se rendre à la Mecque, jusqu'au Japon qui ferme ses écoles. Hier soir, la Corée du Sud a fait état à elle seule de plus de 500 contaminations supplémentaires en 24 heures, soit plus de 2000 au total. L'Iran annonce 245 personnes touchées, dont 26 morts, 17 morts sur le sol italien, 2 en France, où le nombre de contaminations bondit d'ailleurs et passe de 18 à 38. Ce n'est pas une raison pour fermer les frontières, voilà ce que disait hier Emmanuel Macron lors d'un sommet franco-italien à Naples. Il y a rencontré le président du Conseil italien, Louise Baudet.
Ils ont arpenté de concert le centre historique de Naples, récit en image d'une belle amitié retrouvée que rien et surtout pas le coronavirus ne saurait altérer.
La situation à laquelle nous sommes collectivement confrontés ne pourra se régler qu'en parfaite coopération européenne et internationale.
En France comme en Italie, la lutte contre l'épidémie n'échappe pas à la polémique et la critique vient du même bord politique. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, désormais relégué dans l'opposition, pilonne son ancien allié Giuseppe Conte et réclame la fermeture des frontières. Mauvaise idée, rétorque le président du Conseil.
Fermer les frontières infligerait à notre nation un dommage irréparable, irréversible sur le plan économique. Nous devons être prudents, respecter les préconisations de la communauté scientifique, mais nous ne devons pas avoir peur.
La fermeture des frontières est également préconisée en France par Marine Le Pen.
Il semble que le virus ne s'arrête pas aux frontières. N'en déplaise peut-être à certaines et certains, toutes les décisions utiles seront prises en temps voulu, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les scientifiques nous disent que ça n'a pas d'utilité.
Appel au calme et au sang-froid de part et d'autre, solidarité aussi entre deux chefs d'État et de gouvernement unis dans l'adversité.
Notons par ailleurs que le Nigeria fait état d'un premier cas de contamination, le premier en Afrique subsaharienne après l'Égypte et l'Algérie. Les marchés chutent toujours. Hier, la bourse de Paris dévissait de 3,3%, moins 3% cette nuit à l'ouverture à Shanghai. Pour François Chollet, directeur général de la société de gestion Montségur Finance, le marché s'inquiète.
C'est donc une vague de correction généralisée qui aujourd'hui est en train de frapper les marchés financiers qui constatent avec un peu d'effroi à quel point les impacts, non pas du coronavirus directement, mais des mesures de précaution prises autour de la propagation de ce virus, eh bien ces mesures de précaution aujourd'hui menacent l'économie et la capacité des entreprises à honorer les perspectives qu'elles avaient annoncées pour l'exercice 2020. On a eu des communications très négatives de la part d'entreprises qui nous ont expliqué que soit leurs usines étaient fermées, soit leurs magasins étaient fermés et qu'ils allaient perdre une part significative de leur chiffre d'affaires au cours de ce premier trimestre, et donc le marché est en train de corriger pour prendre en considération ce ralentissement économique. Aujourd'hui, les banques centrales ont expliqué qu'à très court terme en tout cas, elles n'envisageaient pas de mesures exceptionnelles sur les taux d'intérêt pour venir redonner de l'espoir aux investisseurs, et je pense que c'est ce qui aujourd'hui précipite cette correction. Il est clairement nécessaire aujourd'hui que des mesures soient prises ou que des nouvelles rassurantes soient apportées, qu'il s'agisse des banques centrales, qu'il s'agisse également bien évidemment des éléments à l'origine de cette correction, c'est-à-dire des éléments médicaux relatif à cette pandémie de coronavirus.
C'était François Chollet avec Anne-Laure Jumet au chapitre des conséquences économiques encore. Et quand le coronavirus n'arrange rien aux affaires, Air France prévoit de supprimer environ 1500 postes d'ici la fin de l'année 2022. Les départs toutefois ne seront pas contraints. Au deuxième jour d'audience hier dans le procès Fillon à Paris sur des soupçons d'emploi fictif, les juges ont entendu les deux protagonistes, l'ancien Premier ministre François Fillon et sa femme Pénélope Fillon. Elle a notamment dû s'expliquer sur une interview donnée à un journal britannique en 2007, Antoine Marette.
Dans cette vidéo exhumée en pleine affaire Fillon, Pénélope Fillon évoque sa vie de femme au foyer. Elle précise ne jamais avoir été l'assistante de son mari. À la barre, elle tente de contextualiser ses propos. Son époux venait d'être nommé à Matignon. La presse anglaise avait envie de me présenter comme la première dame de France. J'avais toujours voulu rester en retrait. Je ne voulais pas que les journalistes pensent que j'avais un rôle à jouer entre la France et la Grande-Bretagne. J'ai délibérément réduit ce que j'ai fait. Pénélope Fillon évoque également des subtilités de la langue anglaise. Une nuance entre le parliamentary assistant, celui qui travaille au Parlement avec le député, ce qu'elle n'était pas, et le constituency assistant, celui qui travaille dans la circonscription du député, ce qu'elle prétend avoir été. Sauf que dans une autre interview, cette fois pour un journal français en 1999, elle affirme ne pas s'impliquer dans la vie de son mari, alors qu'elle est censée à ce moment être son assistante. Son avocat vole à son secours. Ma cliente déteste se mettre en avant, mentir aux journalistes, ou plutôt leur donner l'image qu'ils souhaitent avoir. C'est un exercice de communication. Pénélope Fillon, championne de la com, est beaucoup moins à l'aise face aux journalistes. Elle ne semble pas convaincue par ses propres réponses. Un moment, elle lâche même « C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes de ce que je faisais comme assistante parlementaire. »
C'était un compte-rendu d'Antoine Marette qui suit pour France Culture ce procès au tribunal de Paris. 5 mois après l'incendie à Rouen de l'usine Lubrizol, l'entreprise en France est mise en examen. Les magistrats instructeurs ont reconnu 2 chefs d'accusation, le déversement de substances nuisibles dans des eaux souterraines, superficielles et dans la Seine, ainsi que l'exploitation non conforme de l'installation classée Céveso O, ce qui a eu des conséquences sur la santé, la sécurité et l'environnement. Alors, que signifient ces 2 chefs d'accusation? Coralie Moreau.
Ça veut dire que le parquet a tenu compte de 2 éléments. Le premier porte sur les conséquences de l'incendie, la pollution des eaux, notamment de la darse de Seine qui a nécessité plusieurs mois de pompage. Le second sur des manquements relevés sur le site avant la catastrophe, manquements qui pourraient avoir contribué à la propagation du feu. Ils avaient fait l'objet d'un PV dressé par la Direction régionale de l'environnement et communiqué au parquet de Paris en novembre dernier. Y était pointé l'absence de détection incendie dans les zones de stockage extérieur, l'absence de plan d'action précis en cas d'incident avec le voisin Normandie Logistique et le manque de réserve d'eau sur le site. L'Adréal avait également épinglé Lubrizol pour ne pas avoir mis en place de système de rétention des eaux polluées qui s'étaient donc déversées dans le fleuve. Des éléments assez graves pour justifier aujourd'hui la mise en examen de Lubrizol France. L'entreprise se voit également dans l'obligation de bloquer une somme de 4 millions d'euros, une réserve qui doit permettre de dédommager les victimes en cas de condamnation.
Et je précise que les causes de l'incendie et son point de départ ne sont pas encore connus. C'était Coralie Moreau de France Bleu Normandie pour France Culture. La Pakistanaise Asia Bibi sera reçue cet après-midi à l'Élysée. L'histoire de cette chrétienne condamnée pour blasphème chez elle a fait le tour du monde. Elle a passé plus de 8 ans en prison, accusée d'avoir bu un verre d'eau dans un puits interdit aux femmes. Asia Bibi était devenue un symbole, autant pour les intégristes religieux que pour les défenseurs des droits de l'homme, avant d'être finalement libérée. Elle demande donc l'asile en France et elle pourrait être entendue, Nathanaël Charbonnier.
Oui, la France est prête à accueillir Asia Bibi et sa famille. C'est le message qu'a fait passer la présidence lorsqu'elle a rendu publique son invitation à l'Élysée. Et de rappeler que notre pays a, depuis le début de l'affaire, toujours été mobilisé pour la défendre. Mais Asia Bibi et la France, c'est surtout le combat de la journaliste Anne-Isabelle Tollé, qui était la première à attirer l'attention sur cette histoire folle. Dès son injuste condamnation, il y a 10 ans, elle l'a soutenue sans jamais baisser les bras jusqu'à sa libération. Asia Bibi et la France, un lien évident, si bien que la Pakistanaise est devenue citoyenne d'honneur de la ville de Paris et qu'elle a même reçu cette semaine le soutien de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Une demande d'asile qui devrait prendre toutefois un peu de temps. Il va falloir monter un dossier. Il faut savoir qu'Asia Bibi avait déjà entamé des démarches au niveau européen et que plusieurs pays étaient déjà prêts à l'accepter. Elle vit actuellement avec sa famille au Canada, où elle dispose d'un permis de séjour jusqu'à la fin de l'année.
C'était Nathanaël Charbonnier. Au moins 33 soldats turcs ont été tués hier en Syrie, dans le nord-ouest du pays, tués par des frappes du régime syrien à Idlib. Dans la foulée, Ankara a réagi hier soir en frappant des cibles du gouvernement syrien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a convoqué un conseil de sécurité extraordinaire. Rapidement, la météo pour aujourd'hui. De faibles pluies sont prévues ce vendredi, mais la journée sera globalement plus calme qu'hier, avec 4 degrés à Lille ce matin, 5 à Paris, 14 à Nice.